parti.
Bon, et ben bonjour à toutes et à tous. Bonjour Joyce Ormond.
Bonjour et merci d'être là.
On vous reçoit aujourd'hui pour votre livre Le Témoin, paru chez Flammarion et qui est sorti en début d'année. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, dans ce roman, vous imaginez qu'un homme, nommé Barthes, choisit de s'exiler à l'intérieur du palais de justice de Paris et décide de s'y installer clandestinement pour ne plus en sortir. Et caché la nuit dans le plafond, il arpente le jour les salles d'audience et assiste au spectacle de la justice, ou, comme vous le questionnez, à celui de l'injustice. Alors, ce livre-là, peut-être, avant d'en dire plus, je vais vous laisser nous lire le début, pour qu'on se plonge tout de suite dans l'ambiance et dans votre écriture.
Donc, je vais vraiment lire le tout début du livre, les deux premières pages, où on découvre le personnage de Barthes. Sur le parvis du palais de justice, cinglé par un vent de nord-est, la frêle silhouette de Barthes se fond dans le gris minéral de la dalle, le gris bitumé d'un ciel bas. Barthes lui-même a la mine grisâtre, émergeant d'une veste croisée, un imperméable à la saignée du coude, une espèce mallette en cuir à la main, de celle profonde et assoufflée que les médecins de campagne trimballent dans les films et les romans. Il passe inaperçu au milieu des pigeons bisets. Il pourrait être l'un d'eux, oiseau des villes, ou un ramier, une palombe. Quand on devrait pourtant s'arrêter sur cette allure intempestive, cet homme a l'air soigné, le petit crâne ovale planté de cheveux ramenés en arrière qui se tient raide dans les bourrasques, s'attardant sur la vaste esplanade, indifférent à l'agitation. On entre et on sort du tribunal par brassée, on presse le pas, on relève son col, on file le nez au sol. Barthes s'est immobilisé pour admirer le monument récemment inauguré. Deuxième plus haut bâtiment de la ville, croit-il savoir. Il compte les quatre blocs superposés, 38 étages en effet, surmontés de terrasses arborées, un hectare planté dans le ciel. Il apprécie les reflets mercure des façades vitrées, les teintes acier et les panneaux solaires fichés à l'aplomb de la tour, qui lui donnent un air de station spatiale. La tête lui tourne à force de scruter les hauteurs, le vent fouette. Alors Barthes se décide enfin à entrer, à pénétrer dans le palais, un vaisseau. Il s'engage sous le vent, jette un œil circonspect au drapeau, national et européen, passe les tourniquets, fait maintenant la queue au contrôle de sécurité. Ça bouchonne et ça piétine. Certains s'en irritent, ils ont une audience, le font savoir bruyamment, interpellent les agents de sécurité, mais il faut ouvrir les sacs, défaire les ceintures, ôter parfois les chaussures, scanner les bagages. Barthes laisse passer un jeune impatient qui le talonne, puis vient son tour de déposer sa montre dans une barquette, sa mallette sur le tapis roulant. Les rayons X révèlent alors, sans attirer cependant l'attention de l'opérateur de sûreté devant son écran, les contours et les ombres d'un nécessaire de toilette, d'une gourde, d'un caleçon, d'un cintre et d'une lampe frontale.
Merci. Donc le début de l'histoire de Barthes dans le palais de justice. Alors, avec ce livre, vous proposez, en fait, vous explorez deux veines que vous avez déjà parcourues dans vos livres précédents, entre documentaire et fiction. Là, on est dans une fiction, mais très documentée. Et vous confiez la parole à Barthes, dont le nom se rapproche de Bartleby, de Melville. Alors, pourquoi, pour un livre pourtant dans lequel, on y reviendra, vous êtes beaucoup documenté, avoir confié la parole à une tierce personne ?
Alors en effet, le livre a, comme vous le rappelez, a deux lignes, suit deux lignes. Une ligne purement en effet documentaire, qui est le récit d'audience au palais de justice de Paris, et puis une ligne très romanesque, qui suit la vie donc de ce personnage vraiment fictionnel au sens où il n'a aucun caractère réaliste. C'est presque un personnage impossible. Donc il vit caché dans un faux plafond du palais de justice. Il a quelque chose d'un personnage de fable, assez désuet, assez symbolique. Et donc je voulais cette espèce de contraste entre la matière documentaire très forte et puis un personnage assez surréaliste, qui en effet est inspiré de Bartleby, un personnage créé par Melville, qui a donné le nom à cette nouvelle de Melville, Bartleby le scribe. Et donc, et cet homme qui, euh, qui face à la violence du monde, propose une espèce de retrait silencieux, de sédition. Et donc je voulais suivre ces deux lignes. Alors j'aurais pu en effet me contenter de faire un documentaire sur la justice. Et pour vous répondre, je reviens à mon livre précédent qui s'appelle À la folie, qui était une immersion pendant un an dans un hôpital psychiatrique et qui était un récit beaucoup plus purement documentaire, même s'il y avait des petits morceaux de fiction à l'intérieur. Et c'était un récit dans lequel je me mettais en scène, je disais « j'apparaissais en fait dans ce récit documentaire puisque je montrais comment pendant un an j'avais vécu avec des patients et des soignants donc dans un service psychiatrique fermé. La démarche n'était pas la même puisque le travail d'immersion au palais de justice n'était pas le même. C'est-à-dire qu'en psychiatrie, je voulais vraiment vivre avec les acteurs de la psychiatrie, qu'ils soient patients ou soignants, partager leurs repas, partager les discussions, partager des moments de vie, fumer des clopes avec eux, etc. Partager des nuits. Là, le projet, c'était pas d'aller à la rencontre des avocats, des greffiers, des procureurs, voilà, de partager comme ça la vie des acteurs de la justice. C'était précisément de prendre la place du témoin, qui donne le titre au livre, c'est-à-dire de m'asseoir dans le public, puisque toutes les audiences en France de justice sont publiques, et de m'y asseoir comme ça avec les anonymes et d'être spectatrice de la justice. Donc c'était pas du tout le même rapport à la matière documentaire. Je me mettais sur le côté de la scène et j'observais en silence ce qui se passait. Et donc pour moi le jeu JE n'était pas pertinent dans le cadre de cette immersion là. Et il m'intéressait donc d'inventer un personnage de témoin. Je trouvais ça pas intéressant que ce soit moi ce témoin silencieux de même si Barthes est évidemment ma projection. Mais je trouvais ça intéressant de fabriquer un personnage de témoin qui soit une espèce de projection absolue de ce que peut l'écrivain, c'est-à-dire d'être cet observateur obsessionnel, attentif, qui a tout quitté, qui a tout laissé derrière lui pour assister au spectacle de la justice de manière très très minutieuse, de manière très sacrificielle et avec une patience... et une attention aux mots, aux gestes, au corps, aux postures, qui soit extrêmement précise. Donc j'ai voulu projeter grâce à la fiction cette figure du témoin absolu. Et puis par ailleurs, ça m'intéressait beaucoup de travailler ce personnage mythique de la littérature qu'est le Bartleby de Melville. Si vous ne l'avez pas lu, je vous incite à le lire, c'est une nouvelle assez courte de Melville. Et donc j'avais envie de reprendre aussi cette figure qui est connue pour sa fameuse formule « je préférais ne pas ». Donc il travaille comme avoué chez une forme de notaire, j'ai oublié le terme exact. Donc il est scribe et à chaque fois que son patron lui demande d'exécuter une tâche, il... répond toujours par cette célèbre formule « je préférais ne pas », qui est donc une manière de faire sédition avec le monde, mais d'une façon pas du tout frontale. Et je trouvais ça aussi très intéressant de reprendre ce rapport au monde, ce rapport un peu décalé, un peu silencieux, mais observateur, de le reprendre face à la justice d'aujourd'hui, à sa violence, à ses dysfonctionnements. Et je trouvais que Barthes était aussi une belle réponse romanesque à la violence de la justice.
Tout à fait. Alors, on a un personnage qui, comme vous le dites, et on l'a dès les premières lignes, hein, extrêmement minutieux, il observe les pigeons, voilà, des petits détails, et qui ont du poids dans l'ensemble du livre, qui construisent vraiment une atmosphère très forte, en opposition entre cette abnégation, cette radicalité, et son monde de la justice foisonnant, et qui découvre petit à petit, puisque... au début, il semble ne rien y connaître et pourtant il va s'immerger dedans et, comme vous le dites, le décrypter avec un sacrifice tel qu'il va suivre des audiences de bout en bout sans bouger.
Ouais, Oui, le livre, il raconte donc cette trajectoire qui était aussi la mienne. Savoir que quand j'ai eu envie d'aller passer un an à raison d'un jour par semaine au Palais de Justice de Paris, j'étais dans la même position naïve et candide que mon personnage de Barthes. C'est-à-dire que j'imagine qu'on est tous dans la même situation, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, si on n'a pas eu affaire à la justice personnellement, si on n'a pas été convoqué à un moment par la justice, il est extrêmement rare qu'on pousse les portes d'un tribunal et qu'on aille s'intéresser à des audiences, qu'on aille écouter des audiences. Et justement, moi, je suis partie de cette interrogation. Je me suis dit, mais pourquoi finalement nous ne portons pas d'intérêt à la justice quand elle ne nous concerne pas, alors que la justice, en réalité, nous concerne tous, puisque c'est là que se voient les lois, c'est là que se voit la politique qui est menée, la politique qui est menée contre les étrangers, contre les pauvres, contre la drogue. Donc la justice est une espèce de loupe sociale assez passionnante et qui dit beaucoup justement de la façon dont fonctionne la société. Et la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Les audiences, comme je disais, elles sont publiques. Normalement, on rend la justice devant un public, et ce public, il est censé incarner le peuple. C'est une espèce de peuple en petit. Et la justice ne peut pas se rendre si nous ne sommes pas là pour l'observer au moment où elle entre en acte. Et donc, moi, j'ai fait cette espèce de... d'effort, je pourrais dire, alors pas au sens où j'aurais plus de mérite que les autres, c'est en tant qu'écrivain que je l'ai fait, en tant qu'écrivain qui cherche un sujet et qui cherche à écrire sur une matière. Je l'aurais pas fait en tant que citoyenne, il a fallu que je passe par le truchement finalement d'un projet littéraire. Mais le livre, il raconte aussi ça, comment ceux qu'on croit ne pas nous concerner, en réalité, nous concerne tous. Et moi, j'écris des livres justement pour être concerné par ce qui ne me concerne pas. C'est aussi pour ça que j'ai écrit sur la psychiatrie. Le livre me sert à être concerné parce que je ne croiserai jamais sinon. Donc le Barthes, il est aussi ce personnage qui, à un moment, se dit... alors, on apprend dans le livre pourquoi, pour des raisons... biographiques qui sont dévoilées petit à petit, à un moment se dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller surveiller cette justice, s'assurer de son fonctionnement? C'est la question que pose la quatrième de couverture. Est-ce que la justice est juste? Une question aussi bête que ça, qui est la question qui nous concerne tous en tant que citoyens. Donc il y va avec cette question un peu naïve. Sauf que lui, contrairement à moi, il quitte tout pour pouvoir y répondre. Et donc le livre raconte cette trajectoire, comment petit à petit, il découvre l'injustice de la justice à travers la manière dont elle se fait au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre qui ne raconte pas des grands procès d'assises tels qu'ils sont relatés dans les médias, très régulièrement, c'est-à-dire ce qui est médiatisé, ce sont les grands procès d'assises, ce sont les grandes affaires, ce sont les faits divers, ce sont les sociopathes, les psychopathes, la monstruosité, avec beaucoup de guillemets, humaine, ce qu'on pense être la monstruosité, et qui en réalité ne représente qu'une infime partie de ce qu'est la pratique de la justice. Donc moi, j'ai voulu faire un livre qui raconte le quotidien de la justice, sa banalité, le tout venant de la justice, la justice correctionnelle, donc les violences, les stupes, la petite délinquance, le terrorisme du quotidien, parce que maintenant, il y a les procès pour terrorisme, il y en a quasiment autant que pour trafic de cannabis, les histoires d'inceste ou violences conjugales, tout ce qui fait une espèce de matière sociale violente quotidienne qui concerne des centaines d'affaires chaque jour partout en France.
De manière, justement, vous rendez visible alors ce qui est complètement invisibilisé, ce que vous venez d'expliquer. On ne pense généralement pas, alors sauf si on est concerné, à la manière dont on rend la justice. Et ce qu'on disait en aparté au début, moi, ça m'a particulièrement touchée, puisque au moment où j'ai lu votre livre, ben, je suis intervenue pour la première fois dans un centre pénitentiaire. Et c'est des questions, les questions de quelle justice on rend, quel verdict, quelle peine on applique. Quelle privation de liberté que vous allez justement questionner et à qui on applique telle ou telle sentence. Là aussi, vous explorez les différentes formes de manière de conclure, on va dire, ces procès, avec une différence entre certains publics. La justice n'est pas, on va dire, n'est pas égalitaire.
Bah, déjà, elle n'est pas égalitaire parce que donc le livre, comme je disais. Retrace un certain nombre d'audiences sur tous les sujets que j'ai énoncés. Et puis voilà, parallèlement, on suit la petite vie de bivouac de Bart dans son faux plafond. Et ces audiences dessinent et, en effet un état de la société dont je parlais tout à l'heure, qui est un état qui met à nu la lutte des classes de façon non pas du tout idéologique, mais absolument incontournable, évidente, c'est-à-dire que c'est toujours une même classe sociale qui se retrouve du côté des prévenus, sont toujours très majoritairement des hommes, issus des classes populaires, issus de l'immigration, et donc cette masse prolétaire est jugée par, évidemment, une classe bourgeoise, mais je ne le dis pas avec mépris, c'est-à-dire que statutairement, la magistrature est bourgeoise, puisqu'elle implique d'appartenir à une certaine classe, d'avoir fait un certain nombre d'études, de gagner un certain salaire, même s'ils ne sont pas mirobolants, on le sait, dans la justice, mais disons que dans le petit théâtre, dans l'enceinte, sur la petite scène théâtrale d'un procès, évidemment que cette partition qui est celle de la société tout entière, elle est mise comme sous une loupe, quoi. C'est-à-dire que quand vous assistez à des comparutions immédiates et que toute la journée vous voyez défiler les mêmes profils d'hommes qui sont jugés par les mêmes profils d'hommes, vous ne pouvez pas ne pas le constater. Donc la justice prend acte de manière extrêmement vive et sous une lumière très crue de ces partitions sociales. Et donc, en effet, ce qui frappe aussi le personnage de Bart, c'est le systématisme de la prison. C'est-à-dire que toutes les affaires, que ce soit une affaire aux assises pour inceste ou un trafic de drogue, mène invariablement à la prison. Alors évidemment, des proportions qui ne sont pas comparables, mais avec cette idée la punition, quel que soit son degré, la gravité des faits, etc., ne peut s'incarner que dans l'emprisonnement, que par le fait carcéral, et que la réparation ne peut avoir lieu que de cette sorte, que la vengeance sociale que ça implique ne peut s'exprimer aussi que à cet endroit-là. Et donc le livre, alors c'est pas un livre sur la prison, mais la prison est l'horizon du livre, on pourrait dire. La prison est vue comme la deuxième jambe de la justice, et les deux fonctionnent systématiquement ensemble, alors qu'on sait très bien qu'il y a d'autres systèmes de peine déjà qui existent, mais qui sont très très peu appliqués, et puis surtout avec cette idée que la réponse carcérale, qui est une réponse en fait dans le tout carcéral, en tout cas, qui a deux siècles, hein, qui n'est pas du tout si ancienne, et le tout carcéral n'est absolument pas interrogé, remis en question, comme si la justice ne pouvait pas s'exprimer autrement. Donc il y a cette espèce de folie à cet endroit qu'interroge Bart, enfin d'abord qu'il constate et puis qu'il interroge justement dans cette espèce d'articulation avec ce qu'il appelle le sentiment de vengeance. Est-ce que la justice, historiquement, elle a été inventée pour remplacer la vengeance personnelle, pour empêcher que les litiges se règlent de personne à personne sur le mode de la vengeance, donc de cet affect négatif, violent, qui nuit à l'ordre social. Or, ce que constate Barthes, c'est qu'en fait, l'affect de la vengeance, qui est un affect un peu plus humain, il traverse autant le système judiciaire, l'institution, qu'il ne traverse les individus. Donc c'est aussi ça que le livre essaye de mettre à jour.
Donc vous mettez à jour, oui, cet affect de la vengeance à l'occasion d'inceste, voilà. Vous décrivez comme ça, alors vous les avez cités tout à l'heure, des vols, trafic de drogue, des procès ordinaires. Je vous propose peut-être de lire un deuxième extrait pour entendre justement la manière dont vous décrivez et puis un procès, la description d'un procès ordinaire.
Les juges sont en retard. Le public se lève, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Les faits sont exposés au pas de charge. Il s'agit d'une jeune femme de 25 ans qui a brûlé plusieurs feux à bord d'un scooter Yamaha 125, puis percuté un autre scooter après un refus d'obtempérer et chuté. Les policiers qui l'interpellent et la fouillent trouvent de la drogue cachée sous ses aisselles, 50 grammes d'ecstasy et 48 grammes de cocaïne. Elle refuse de signer le PV. La chambre qu'elle occupe dans un appartement en colocation avec sa sœur et le fiancé de sa sœur est perquisitionnée. 1 200 € en liquide dans le dressing, un sac Dior accroché au radiateur et 2 cartes d'identité volées. Elle assure aux policiers que l'argent liquide correspond au pourboire économisé quand elle était serveuse. Pour les cartes d'identité volées, elle ne sait pas. Des tests toxicologiques révèlent des traces de drogue sur les billets saisis, alors on insiste. Elle finit par avouer qu'elle consomme et balance même le nom de son dealer. On l'appelle Pompote. Mais elle refuse de donner le code de son téléphone. Un refus suspect et constitutif d'une infraction selon le tribunal devant lequel elle se tient aujourd'hui, quelques semaines après son interpellation. C'est parce que j'avais des photos et des vidéos intimes, je voulais pas que les flics tombent dessus. Elle a réponse à tout et regarde ailleurs quand on lui parle. S'adresse de mauvaise grâce au juge. Barthes note un tatouage près de l'oreille, les initiales VV, une rose sur la main. Ses ongles sont longs, pointus et manucurés. Elle a gardé son imposante doudoune noire en cuir sous laquelle on distingue un minuscule débardeur de la même couleur. Elle a le ventre à l'air, n'a pas fait l'effort vestimentaire attendu, une tenue sage et couvrante. N'y a sans doute pas pensé, peu au fait des coutumes en la matière, des usages de contrition et de sérieux qui s'incarnent aussi d'abord dans les vêtements portés à l'audience, l'impression bonne ou mauvaise qu'on donne. À moins qu'elle maîtrise parfaitement ses codes, mais qu'elle nous emmerde et veuille le signifier. Barthes a ceci d'avantageux qu'il porte déjà le costume adéquat s'il venait à être jugé, et ressent une certaine appréhension à la vue de ces prévenus qui ne soignent pas leur présentation, aggravent d'emblée leur cas, le plus souvent faute de connaître les règles esthético-morales qui prévalent à l'audience, et confortent ainsi les préjugés du tribunal. Le jugement étant l'expression officielle des idées reçues de la classe que la justice entend défendre, celle des honnêtes citoyens. Son air bravache, ses manières insolentes, le chewing-gum mâchouillé avec ostentation et qu'on lui a fait cracher au début de l'audience, ajoutent encore à l'appréciation défavorable de son dossier pénal. Son comportement l'accable, on sent qu'elle ne souhaite pas collaborer avec la justice. Elle n'en voit certainement pas l'intérêt, le profit qu'elle pourrait en tirer. Peut-être aussi refuse-t-elle la collaboration, y voyant une forme de soumission. Elle en a soupé de la soumission, elle a donné. Barthes se laisse impressionner par ce mélange de maladresse et d'arrogance, tout ce à quoi il n'a pas accès, apprécie son ignorance des normes et de la bienséance, son immaturité et sa fierté, lui l'homme sec et posé. Il sent bien qu'elle énerve la cour, et même son avocat à qui elle rendra la tâche plus ardue, perdue d'avance. Quand Barthes l'a vu se poster à la barre, bien campé, il a tout de suite su. Il commence à avoir une petite expérience de la justice. Su que la jeune femme serait jugée pour ce qu'elle est, sa conduite générale, autant que pour ce qu'elle a éventuellement commis. Peu importe ce qu'on lui reproche, d'avoir à le démontrer ou non, le soupçon porte davantage sur sa personne. Et si elle n'a pas dealé de drogue cette fois-ci, elle le fera très certainement plus tard, ou l'a déjà fait, son tempérament criminel ne faisant aucun doute aux yeux de la cour. une mauvaise nature que confirme l'étude de personnalité. La mère de la mise en cause était schizophrène et elle n'a pas connu son père, a été placée en foyer à 6 ans, puis en famille d'accueil à 10. Elle est autonome depuis ses 18 ans, a passé un bac pro-restauration, a traversé une longue période de chômage avant une récente reconversion dans le marketing digital. La drogue, j'avais arrêté pendant le Covid et là, avec le déconfinement, j'ai fait un achat compulsif, pulsionnel. Je suis une bonne vivante, vous savez. J'ai beaucoup de connaissances, je sors depuis des années, mais je n'ai jamais fait de trafic. Je faisais profiter mes amis, c'est tout. Et je précise que le sac Dior, c'est une copie. Je suis une nouvelle femme désormais. Je change de métier, de fréquentation, de milieu. Je vois un psy 2 fois par semaine pour décrocher de la drogue. Elle n'entend pas faire acte de repentance, mais le juge qui la soupçonne de revendre veut la faire avouer et commence à perdre patience, entre condescendance et agressivité. Le trafic de stupéfiants, c'est transport, détention, offre ou cession. Cession, vous entendez ? Vous encourez 10 ans de détention. Arrêtez de prendre les juges pour des imbéciles. Bon, abrégeons. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Alors le procureur bondit, souple et vif. Un chat sur une pelote de laine. Ses yeux fixent un point invisible dans la salle d'audience, l'espace vide et indéterminé auquel il est censé s'adresser pour prononcer ses réquisitions, n'étant pas supposé dévisager le prévenu. Tandis que la jeune femme regarde toujours ostensiblement ailleurs. Madame dit que la drogue qu'on a trouvée sur elle était destinée à sa consommation personnelle. Or, les tests toxicologiques pratiqués ne font apparaître aucune trace de stupéfiants chez la prévenue. Nous avons donc bien la preuve que ces substances étaient destinées à la revente. Par ailleurs, madame affirme que si elle a acheté en grande quantité, c'était pour profiter d'un prix gros. Personne n'y croit. Nous savons parfaitement que c'est en vue de céder cette drogue et que ce soit à titre gracieux ou onéreux, c'est pareillement réprimé par la loi. Le ministère public demande donc la confiscation de son argent, une amende de 1 000 euros, l'annulation du permis de conduire, une peine de prison en partie aménageable, 18 mois dont 12 assortis du sursis probatoire et 6 mois avec un bracelet électronique.
Je m'arrête là.
Voilà, vous mettez en évidence alors le vocabulaire, la manière de parler, des manières de parler qui s'opposent, de se tenir. Vous parlez de la tenue correcte qui aurait été exigé, on va dire. Voilà. Vous décrivez assez minutieusement toutes ces oppositions, comme on disait tout à l'heure, entre les classes. Et puis, vous décrivez aussi le manque de temps. Alors, vous attardez un petit peu plus sur ce procès, mais vous décrivez plusieurs affaires de manière très rapide et qui rendent très bien le manque de temps de la justice, des juges commis d'office qui n'ont pas le temps de plaider.
Les avocats commis d'office.
Les avocats commis d'office, oui, qui n'ont pas le temps de plaider. Donc vous êtes immergé dans toutes ces affaires-là. Vous en avez sélectionné certaines, vous en avez reconstruit, on va dire, à partir de tout ce que vous avez fréquenté.
J'ai passé 1 an à assister à des audiences, donc au Nouveau Palais de Justice à Paris, qui se trouve porte de Clichy, qui est un bâtiment construit par Renzo Piano, qui domine la ville, un bâtiment très... C'est impressionnant dans lequel se reflète justement tout l'urbanisme autour. Et donc tous les mercredis, je passais la journée là-bas. Et comme le personnage de Barthes, je divaguais dans le palais de justice en poussant des portes au hasard et en allant m'asseoir dans le public pour assister donc à des audiences. Et comme je le disais, je voulais avoir une espèce de panorama assez diversifié de toutes les affaires. Excusez-moi, je tousse un peu. Donc. Besoin de boire. Donc au bout d'un an, j'avais une matière assez importante et surtout assez répétitive. Le livre raconte aussi ça, que la machine judiciaire, et c'est pour ça que la métaphore de la machine que j'utilise à un moment... vraiment sur le mode de la chaîne à l'usine, des 3-8, où j'ai le sentiment que les prévenus sont comme des produits manufacturés qui tournent sans cesse sur un tapis et qu'on les boulonne comme ça au passage. Donc le sentiment de répétition, il est venu assez rapidement. C'est, en fait, rendre la justice est une tâche assez répétitive, puisque comme je disais tout à l'heure, ce sont finalement toujours... les mêmes profils, les mêmes délits, et que les juges appliquent aussi la loi de manière complètement mécanique. On a l'impression que ce sont des tableaux Excel, quasiment. Puis comme ils n'ont pas le temps, en comparution immédiate, il y a 3 minutes, montre en main pour juger un homme, On n'a même pas le temps de on n'a pas le temps déjà de s'intéresser aux prévenus et encore moins d'interpréter la loi, parce que normalement le juge est celui qui applique la loi, mais en l'interprétant. Mais dans ces conditions, on peut juste se contenter de l'appliquer. Et quand on l'applique, c'est toujours de manière plus sévère que quand on l'interprète. Parce que dès que la pensée est absente, la violence s'engouffre. Donc au bout de cette année, j'avais beaucoup de matière. Donc en fait, j'ai sélectionné dans la mesure où j'ai supprimé. Au début, j'avais plus écrit. J'ai supprimé des affaires qui me semblaient vraiment trop répétitives par rapport à d'autres. Et en revanche, j'ai pas fait de compression. Toutes les affaires que je raconte sont des affaires vraiment auxquelles j'ai assisté. Les prévenus sont les prévenus. Quand je dis qu'une femme est en doudou noir, elle est en doudou noir. Les paroles rapportées sont les paroles. Enfin voilà, j'ai, pour le coup, vraiment comme une greffière, j'ai voulu, de manière la plus scrupuleuse possible, évidemment que des choses m'ont échappé. En plus, j'écrivais sur un petit carnet, puisqu'on n'a pas le droit d'enregistrer, donc des choses échappent. Et forcément que l'esprit reconstruit quelques trucs. Mais en tout cas, je n'ai pas voulu faire de montage. Autant dans le précédent, sur l'hôpital psychiatrique, il y avait parfois des montages. Mais là, l'idée, c'était en plus vraiment de raconter, comme je disais tout à l'heure, ces petites pièces de théâtre, ces petits huis clos là, qui se succèdent les uns derrière les autres, ces petites scénettes où chacun joue son rôle, on enfile les costumes, on monte sur l'estrade, il y a la sonnerie, etc. Donc il y a quelque chose de très très formalisé, très très joué. Donc je voulais vraiment les raconter comme des petites pièces de théâtre. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas voulu modifier les choses. Et c'est vraiment le point de vue de Barthes qui est comme une espèce de tangente creusée dans le récit de l'audience. Une espèce de faisceau lumineux qui vient vraiment croiser la scène de théâtre, quoi. Et qui à un moment zoom, met la lumière sur certains éléments qui permet de sortir du pur récit documentaire ou du pur rapport type reportage, quoi.
Alors vous parlez de machine, et des fois on parle de la machine judiciaire, et on a vraiment cette impression justement de système qui s'entretient, on n'a pas le temps, finalement, des personnes condamnées sont à nouveau condamnées. Et on est comme ça pris dans un... En perdant complètement la notion du temps. D'ailleurs, on ne sait pas combien de temps Barthes reste jusqu'à la fin. Je ne sais pas si on va raconter la fin, mais peut-être pas. Voilà. On va essayer de ne pas dévoiler. Voilà.
Une fois qu'il y a du suspense dans un livre, c'est la première fois que j'ai réussi à avoir une fin un peu... Je passe un truc.
Donc gardons le suspense. Mais voilà, on est pris dans un système sans fin. On perd la notion presque de temps, de nuit, de jour. On perd complètement la notion du temps. Comme si la justice devenait quelque chose. C'est très kafkaïen, en fait.
Bah, oui, là, je parlais tout à l'heure du Bartleby de Melville, qui est donc un sous-texte essentiel du témoin, mais il y a évidemment aussi l'œuvre de Kafka, le procès de manière emblématique, mais il y a aussi une référence à un autre texte de Kafka qui s'appelle La colonie pénitentiaire, que je vous invite aussi à lire si vous ne le connaissez pas, qui est une nouvelle de Kafka, et voilà, qui est très explicitement cité dans le témoin. Il y a aussi Le terrier, qui est le dernier texte de Kafka inachevé, voilà, Barthes est vraiment cet animal qui vit dans son terrier. Donc il y a évidemment des références à l'espace clos kafkaïen, un espace clos, un espace animal, un espace où l'intuition et la raison s'affrontent, et où la rationalité n'est pas là où on le pense, puisque c'est aussi un livre sur la déraison de la justice. Et c'est vrai que cette espèce de perte de repères spatiaux et temporels contribue pour moi à donner ce sentiment du vacillement de la raison dans cette enceinte qui est censée l'incarner de la manière la plus exemplaire. Donc en effet, il n'y a pas de repères temporels. On voit juste quand même l'apparence de Barthes se déliter petit à petit, son corps aussi se sentir le poids de la promiscuité, d'une mauvaise alimentation, du temps qui passe. Et c'était aussi pour moi une manière de montrer comment la justice met aussi les corps à l'épreuve. Alors Barthes incarne ce corps qui petit à petit faiblit et se délite sous les coups de boutoir de la justice. Mais ces corps éreintés par la justice, ce sont ceux des prévenus comme ceux des magistrats. C'est-à-dire que quand vous voyez arriver dans le box des hommes qui ont passé 24 ou 48 heures en garde à vue, qui quasiment sans boire, sans manger, mal rasés, fripés. Donc déjà, quand vous êtes, par exemple, en comparution immédiate, vous êtes dans un état physique d'affaiblissement et de début de délabrement. Les audiences durent des heures, les magistrats eux-mêmes sont éreintés, le public lui-même se fatigue, c'est-à-dire qu'il y a aussi... Il y a aussi un passage de la justice sur les corps, c'est-à-dire que c'est une institution qui épuise aussi les corps, mais ceux qui, alors évidemment pas à parts égales, mais ceux qui rendent la justice sont aussi épuisés par cette institution. Et c'est pour moi une référence aussi à, parce qu'il y a beaucoup de références dans ce livre-là, une référence au travail de Foucault sur la manière dont les institutions mettent en marche réglée les corps, la façon dont les institutions sont des outils de contrôle des corps. C'était déjà le cas à l'hôpital psychiatrique et en réalité ça l'est aussi dans le système judiciaire.
Et dans l'institution de laquelle vient Barthes, parce que Barthes vient aussi, alors je ne sais pas si vous souhaitez le dire ou si on garde aussi le secret, voilà, il travaillait à Pôle emploi. Voilà, qui est une institution en soi, qui marque aussi les corps. Alors, vous en parlez peu, mais je suppose que ce choix-là n'est pas anodin.
Oui, c'est-à-dire que le Barthes, donc, travaillait à Pôle emploi et a été licencié de Pôle emploi. Et donc, se retrouve, passe d'une institution à une autre, et évidemment, il y a une espèce de passage entre les deux institutions. Et à un moment dans le livre, il se dit « Est-ce que je vais voir des anciens clients, entre guillemets, de Pôle emploi dans le box des accusés ?» Il se pose la question et se dit « Un jour, c'est certain, je vais en reconnaître un. » Puisque la justice, elle concerne, comme je disais tout à l'heure, son exercice, en tout cas son exercice répressif concerne cette classe sociale qui est celle qui fréquente... qui fréquente Pôle emploi. Donc le passage est évidemment voulu. Et la question de la justice ou de l'injustice de l'institution en général se pose en effet dans les deux lieux. C'est-à-dire que Pôle emploi est censé être un lieu où on va donner du travail aux gens, les aider à se réinsérer, selon le terme consacré qu'on pourrait critiquer. Voilà. Et est-ce que l'institution produit ses effets et la justice, elle, est censée rétablir un équilibre social? Est-ce que cette institution, là aussi, fonctionne normalement? Donc il y a évidemment un jeu de miroir entre les deux, même si, comme vous le dites, je ne parle pas beaucoup de Pôle emploi, mais l'effet de sens est là, quoi.
Et donc Barthes, vous l'avez dit, qui pâlit, qui s'efface, qui s'étiole. Voilà. J'aimerais peut-être que vous nous parliez de la notion de sacrifice. Vous l'avez dit au tout début, et il y a cette dimension-là, une sorte de sacerdoce qu'il endosse justement pour exactement suivre une procédure, on va dire, quelque chose de très cadré, et puis qu'il essaye de tenir une routine, qu'il essaye d'entretenir aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces aspects-là?
Oui, alors Barthes, il est traversé par plein d'esthétiques, si je puis dire. Alors il est très inspiré de toute façon de la façon dont Melville lui-même décrit Bartleby dans sa nouvelle éponyme. Le petit costume, le caractère très très obsessionnel, très ordonné, très rangé, impeccable, les gestes mesurés, le silence, le retrait, puisque mon Barthes est silencieux comme l'est le Bartleby, dans cette position d'observateur. Et cette silhouette très ascétique Et ce sentiment d'une grande concentration, c'est-à-dire ces figures qui sont qui paraissent absentes par leur silence, par ce qu'on pourrait penser être une forme de désintérêt, et qui témoignent en réalité d'une extrême attention au monde, d'une extrême concentration, d'une extrême vigilance, et qui sont les vertus de l'écriture, les vertus de l'écrivain. Et Barthes les incarne donc d'une manière en effet sacrificielle, ce que je disais au début. Il fait le sacrifice que moi je ne fais pas, c'est-à-dire que moi je n'ai pas tout quitté pour vivre dans un faux plafond au palais de justice, en me nourrissant uniquement de café au lait et de biscuits au gingembre, et en me lavant à l'eau froide dans un lavabo. Donc Barthes incarne aussi ce qui pourrait être le sacrifice de l'écrivain, si l'écrivain n'était pas un bourgeois comme les autres, qui ne fera jamais, rarement, il y en a qui le font, mais rarement passer la littérature avant tout le reste en réalité. Ça, c'est des discours romantiques qui sont toujours démentis par la réalité, mais enfin, ce n'est pas un jugement moral. Mais et donc, ce qu'on pourrait rêver comme un sacrifice de l'écrivain, alors sacrifice pas au sens de la figure de l'héroïsation, mais sacrifice au sens de consacrer entièrement son existence à cette attention dont je parlais, à ce sens de l'observation, à cette patience, aux détails, consacrer sa vie de manière religieuse à écouter, voir, percevoir, ressentir, être une pure force d'empathie. Donc c'est peut-être un sacrifice qui aurait à voir avec quelque chose de religieux. Mais pas au sens de héros guerrier, certainement pas. Mais voilà. Donc Barthes, il incarne cette espèce de d'image fantasmatique et en même temps un peu comique aussi de l'écrivain. Qui mettrait ces vertus-là avant toute chose, quoi. C'est le sacrifice que fait Barthes, mais qui est un sacrifice d'ailleurs pas malheureux, parce que bon, Barthes c'est pas un galuron non plus, hein, mais je le vois pas du tout comme quelqu'un de déprimé ou de maussade ou de mélancolique. Comme je pense le sacrifice sans doute des gens de foi, quoi. Il y a quelque chose en fait de lumineux dans la cèse, et pour moi Barthes c'est un peu ça.
Oui, il y a une sorte de foi pour occuper sa position, rendre compte, observer. Et alors moi ce que j'ai beaucoup ressenti, c'est justement qu'il observe, il fait un constat quelque part très neutre. Alors on a dit, vous dénoncez, etc., et en même temps libre à nous de nous faire un avis. Je trouve que c'est une position très intéressante tout au long de la lecture, avec cette volonté d'observer, de rester en dehors tout en étant attentif.
Alors, je me permets de ne pas être d'accord avec vous quand vous dites vous dénoncer. Je pense que le réel se dénonce tout seul. Moi, je n'écris jamais de livre pour dénoncer. Je pense que c'est très mal parti d'ailleurs quand... Si le sentiment premier c'est de vouloir dénoncer, je pense que c'est mal barré, parce que cette espèce de volonté de la dénonciation fait écran justement avec la captation du réel, quoi. Moi, comme pour l'hôpital psychiatrique, j'y suis pas allée avec le désir de dénoncer. Alors, même si dans les deux cas, je me doutais bien que c'était pas la fête, hein, et que j'allais pas voir des choses magnifiques et me dire c'est incroyable comme le service public fonctionne bien dans ce pays. Mais ça, on est tous au courant. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de donner à voir une réalité, de donner à la voir de manière assez précise, assez sensible, pour que apparaisse sa violence, ses dysfonctionnements, ses prétentions, sa déraison, comme je disais tout à l'heure, ses mensonges, ses vilainies, etc. Mais à aucun moment, moi, je prends la parole pour dénoncer. En revanche, j'essaye de de me faire justement, alors évidemment que je suis pétrie d'a priori de préjugés comme tout le monde, mais j'essaye quand même de me faire la plus neutre possible. C'est aussi pour ça que le truchement du personnage de fiction est intéressant pour ça, parce que c'est une surface de projection. Et donc, par le truchement de ce personnage candide et plutôt animé de bonnes intentions, je peux donner à voir de manière justement plus trouble, plus ambivalente, plus lente, plus patiente, pas à pas, voilà, ce fonctionnement machinique. Et en effet, comme vous dites, chacun peut se faire son avis, mais enfin, c'est pas vraiment ça non plus, parce que c'est vrai que tout le monde me dit que le tableau que je fais de la justice est absolument délétère, mais je pense pas qu'on fasse des tableaux délétères d'une réalité, c'est la réalité qui l'est. Voilà, c'est le livre, il est pas sur le mode de l'essai ou du pamphlet ou du manifeste. Il n'est pas théorique, il n'est pas idéologique, je propose aucune, par ailleurs, aucune solution, ce n'est pas, mon métier, mais et c'est vrai qu'à un moment, je parle de la prison en disant que la prison n'est efficace en rien, à aucun endroit, c'est-à-dire qu'elle empêche la réinsertion, elle multiplie la violence, elle multiplie la récidive, elle appauvrit les familles au dehors, donc provoque encore plus de pauvreté, plus de délinquance, etc. Elle n'apaise pas nécessairement la douleur des victimes, elle coûte un argent démesuré, elle est inhumaine, enfin, elle ne va nulle part. Mais ce que je dis là est documenté par des sociologues très sérieux, comme Didier Fassin, par exemple, qui a beaucoup écrit sur la prison. C'est-à-dire que ce sont des travaux scientifiques qui disent, c'est pas moi qui ai un point de vue sur la prison. Le fait que le taux de récidive soit aussi important, c'est pas un point de vue sur la prison, c'est un fait, quoi. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, qui sont des sujets éminemment polémiques, éminemment idéologisés, pas idéologiques, mais idéologisés, par les politiques, par les médias, etc., toute affirmation d'une réalité purement statistique, par exemple, devient une prise de position. C'est le danger de ces motifs-là, de ces thèmes-là, qui sont sociétaux, politiques, c'est qu'il y a une confusion entre, justement, un travail littéraire de mise en lumière, comme je disais tout à l'heure, de réalité, mais c'est-à-dire la mise en lumière singulière de la littérature, pas singulière au sens original, au sens où la littérature s'intéresse aux singularités, c'est-à-dire des corps, des gestes, des façons de parler, comme je disais tout à l'heure, des langues, faire entendre des langues. Et donc, il peut y avoir une confusion entre ce travail de singularisation et une prise de parole sur un sujet. Mais et c'est étonnant de voir, par exemple, qu'on dit... certains médias, malheureusement assez dominants en ce moment, ne cessent de nous seriner que la justice est laxiste. Et d'ailleurs, moi, j'ai pu faire des interviews avec des journalistes qui me disaient, vous voyez bien quand même que vous êtes à contre-courant, parce que ce qu'on entend, c'est plutôt que la justice est laxiste. Or, c'est le contraire. Enfin, c'est pas un point de vue. C'est la justice est tout cela laxiste. Elle est de plus en plus sévère. On invente des délits chaque année. Il y a de plus en plus de peines, plus en plus de gens dans les prisons. Donc, c'est le contraire. Et la littérature, elle vient pas dire c'est le contraire. Elle vient dire, OK, vous dites que la justice est laxiste. Eh bien, prenons le temps, ayons la patience de rentrer dans une salle d'audience et de regarder un procès et de voir ce qui est en jeu, quelle est la peine encourue, comment les juges parlent aux prévenus, quel est le rapport entre le délit qui a été commis et la peine qui est encourue, etc. Et singularisons et voilà, juste opposons ça à cette espèce de phrase qui flotte, qui dit que la justice est laxiste. Donc là, ce qui m'intéressait, c'est que la littérature, elle permet justement de sortir de l'idéologie, de sortir de la langue commune, de cette langue médiatique, entre autres, politique, etc., de cette langue qui n'individualise jamais, qui ne singularise jamais.
Et Alors, cette précision. Justement, moi, au cours du roman, j'ai vraiment ressenti que vous laissez la réflexion ouverte, justement, au lecteur. Vous n'imposez pas de point de vue, juste Barthes décrit ses pensées. Et me vient la question, en fait, comment vous êtes passé de... Comment vous en êtes venu, justement, à vous intéresser à la justice après... vous êtes intéressé à la psychiatrie.
Déjà, il y a un lien entre ces deux institutions qui est assez, comme je disais tout à l'heure, qui sont deux institutions qui régissent nos vies sociales, politiques, affectives aussi, et auxquelles nous nous intéressons rarement si elles ne nous convoquent pas, que ce soit l'hôpital psychiatrique. Ou que ce soit la justice, sont des lieux où on ne va pas si on n'est pas convoqué. Donc il y avait une parent. Enfin voilà, j'avais envie de continuer à explorer ça. Ce que l'éditrice a très pertinemment appelé sur la quatrième de couverture nos lieux communs, en insistant sur le fait que en effet ces lieux que nous croyons faits pour les autres, alors pas de manière méprisante, mais pour ceux qui sont concernés par ces institutions, en fait, ce sont nos lieux communs, ce sont nos maisons communes, ce sont nos maisons de citoyens. Donc ça m'intéressait, voilà, de continuer à explorer ça. Ça, pour moi, ça marche vraiment en diptyque avec le précédent. Et puis ce travail justement sur les langues institutionnelles, où dans La Folie, le précédent, je fais entendre vraiment la langue médicale, là je fais entendre la langue judiciaire, donc de faire sonner ces langues. Qu'on n'entend pas, parce que justement on entend des comptes rendus de procès, on entend des comptes rendus, on entend des synthèses, mais on n'entend jamais exactement les mots que va employer le procureur, ou que les mots que va employer le prévenu, ou alors ça va être une phrase comme ça entre guillemets. Donc là je voulais aussi que le livre fasse sonner ces langues là sans commentaire. C'est pour ça que je travaille aussi sur le style indirect libre, comme j'avais fait sur le précédent, d'insérer dans mes phrases ces propos rapportés, sur un plan, le même plan d'immanence, de faire voilà, tout entendre. Donc je voulais creuser aussi ce travail de la langue. Et puis ça m'intéressait d'aller m'installer dans ces lieux plutôt hostiles, où on n'a pas envie de rester, où on ne fait que passer, et donc d'être dans une espèce de posture à rebours de ce que ces lieux impriment normalement au corps, quoi. C'est d'essayer d'être, voilà, de me poser là où personne ne se pose, quoi, prenant le luxe justement du temps. Et c'est, normalement, ce ne sont pas à ces lieux-là, à ces espaces-là qu'on accorde dans nos vies quotidiennes, citoyennes, ce n'est pas à ces espaces-là qu'on accorde du temps. Et moi, je le fais dans le cadre, justement, de l'écriture d'un livre. L'écriture d'un livre, c'est aussi ce qui me permet de décider à un moment que mon temps est dévolu à autre chose. J'ai besoin, finalement, de cet outil-là. Pour le faire, comme je disais tout à l'heure, je le fais plus davantage en tant qu'écrivain qu'en tant que citoyenne.
D'accord. Merci. Donc, Le Témoin comme une poursuite d'exploration des lieux communs, de nos lieux communs. Merci beaucoup.
Merci.
Je vais me tourner vers la salle s'il y a quelques questions.